7. 10h29.
Vous voulez boire quoi, boss ?
Le lieutenant Julo Flores se tenait dans la file d'attente du Starbucks, téléphone collé à l'oreille. Le commandant Pétard Velika lui répondit d'une voix mi-étonnée, mi-agacée.
« J'ai pas changé d'avis depuis que t'es parti, mon petit. Un café, je t'ai dit. »«
Ok, patron, mais ça m'avance pas beaucoup. »
Un silence gêné remplaça la réponse que Julo attendait. Le lieutenant eut l'impression d'être un prof qui vient de poser une question enfantine à un élève qui n'en comprend pourtant même pas le sens. Il s'efforça de préciser avec diplomatie.
« Je suis au Starbucks, patron. Ils ont, disons, du choix. Vous préférez un Guatemala Antigua, un organique Ethiopia, un Cathy Blend, un... »
Raté pour la conciliation. Le commandant explosa avant la fin de l'énumération.
« Démerde-toi, nom de Dieu ! Quand j'ai envie d'un café, je vais dans un bar et je commande un petit noir sans demander au patron s'il a été cueilli au Mozambique ou moulu au Népal. »«
Ok, »
concéda pacifiquement Julo en raccrochant.
« Je fais au mieux. »
Julo n'était pas entré dans un bar depuis des années, mais par contre adorait les Starbucks. Ce mélange de générations qui patientait sagement, les étudiants pour qui un repas ne se concevait que servi sur un plateau, les cadres cravatés avalant leur petit déjeuner d'une main sans cesser de pianoter, les grands-mères choisissant avec une lenteur exquise leurs muffins et leur thé. La file progressait lentement. Julo détailla la liste des cafés sans aucune idée de celui qu'il rapporterait à son patron. Pétard Velika le fascinait. Julo avait toujours du mal à faire des choix, avait toujours besoin de preuves, de compulser des sommes de données avant d'échafauder des hypothèses. Il se sentait comme un ordinateur puissant et efficace, mais seulement capable de raisonnements programmés. Pétard, à l'inverse, fonctionnait à l'instinct, se fichant des constats objectifs, mais capable de repérer en un coup d'œil le bon indice, se moquant des théories psychologiques, mais capable de percer en trois mots la personnalité d'un suspect. Julo aurait adoré pouvoir, comme Pétard, aborder une enquête en dilettante, en flic bourru plutôt qu'en petite fourmi affairée, se cogner au mystère avec nonchalance, se planter sans sourciller et faire preuve d'une mauvaise foi absolue pour retomber sur ses pieds. Enfin, une fille dont la queue de cheval dépassait de la casquette verte nota sa commande avec un grand sourire. « Stéphanie », c'était écrit sur son tablier, en haut de son sein gauche.
« C'est le rush, va y avoir un peu d'attente. »
Autant que leur banana nut cake, Julo adorait les serveuses des Starbucks.
« Pas grave, Stéphanie »,
répondit-il en lui rendant son sourire. Jamais ailleurs que dans un Starbucks, Julo ne se serait permis d'appeler une serveuse par son prénom. Question de réciprocité. Il connaissait la question rituelle que la charmante serveuse allait lui poser une fois la commande passée.
« Quel est votre prénom ?»
Pendant que la serveuse inscrivait « Julo » et « Pétard » sur les gobelets, le lieutenant s'installa sur une chaise haute à proximité, alluma sa tablette 4G et la posa sur ses genoux. Une photo agrandie de coquillages s'afficha en plein écran. Il disposait de quelques minutes pour commencer à s'intéresser à la vie des mollusques. Plusieurs secondes plus tard, il était déjà tellement concentré qu'il ne releva pas la tête lorsque Stéphanie appela d'une voix forte les prénoms de deux clients.
« Bambi ! Bambi et Alpha ! Deux cafés, prêts !»«
Il est pas mal, le garçon, avec sa tablette sur les genoux. »
Bambi quitta des yeux l'homme assis sur la chaise haute près des caisses et observa son frère déposer les cafés.
« C'est un flic, » répondit Alpha.
Pour parvenir à s'asseoir, il tenta de plier son immense carcasse pour coincer ses genoux entre le tabouret et la table. Alpha mesurait plus d'1,90 m. À 15 ans, il avait déjà atteint cette taille. Il n'était alors qu'une longue liane et avait passé toute son adolescence dans les salles de musculation, à nager en mer, à charrier des cartons dans tous les entrepôts du coin pour passer du statut de gringalet à celui de colosse. Mission accomplie. À 17 ans, Alpha était devenu un athlète impressionnant. 90 kilos de muscles, deux cuisses puissantes dissimulées dans des joggings larges et des pectoraux exhibés dans un t-shirt moulant sans manches.
« Comment tu le sais ?»«
Je le sais, c'est tout. et tu ferais bien d'arrêter de le mater. »
Bambi obéit. Son frère avait raison. Même si elle trouvait le jeune flic mignon, et s'il n'avait pas levé la tête à l'annonce de leur prénom, elle se tourna, prit les mains de son frère et le regarda droit dans les yeux. La pression retombait. Après un long silence, elle laissa ses doigts s'échapper et dégrafa le pendentif qu'elle portait. Elle posa sur la table le triangle d'ébène noire. La pointe vers le bas, chez les Peuls, il symbolisait la féminité et la fécondité. Alpha fit de même avec le bijou strictement identique qui pendait à son cou, mais la pointe tournée vers le haut, marque de la masculinité, les deux testicules et le phallus. Il plaça son triangle noir sur celui de sa sœur, formant une étoile à six branches. Leur étoile noire. Leur seul but. Leur seul objectif.
« Je ne suis pas sûre d'y arriver, » fit Bambi.
Alpha reprit les mains de sa grande sœur entre les siennes, énorme, chaude d'avoir porté les deux gobelets de carton.
« Nous n'avons pas le choix. On est des plumes. Le vent nous porte. »
Bambi tremblait. Alpha s'approcha d'elle et l'enlaça. Un poids lourd câlinant un poids mouche. Alpha savait pourtant que sa grande sœur était plus forte que lui. L'avait toujours été. Bambi planta ses yeux dans ceux d'Alpha.
« Bien sûr, petit frère. On ne peut plus reculer. Depuis cette nuit, on a libéré le monstre. Mais c'est pour toi que je m'en fais. »
Du bout du doigt, Alpha rajusta son triangle noir pour qu'il forme une étoile parfaite avec celui de sa sœur. Il prit le temps de porter le café à ses lèvres, puis dit doucement.
« Nous avons discuté de chaque détail. Nous avons mis toutes les chances de notre côté, comme des cosmonautes qui envoient une fusée dans une autre galaxie. Nous n'avons plus qu'à suivre notre plan à la lettre. »
Les bras d'Alpha attrapèrent les épaules de Bambi. Il la pressa de longues secondes contre son torse large.
« Je suis fière de toi, petite sœur. « Nous serons maudits, » murmura Bambi. « Nous le sommes déjà. »
À son tour, Bambi saisit le gobelet. Le liquide chaud coulant dans sa gorge lui fit l'effet d'une lave dévorant les herbes folles d'un champ en friche. Une douche bouillante aurait-elle le même effet sur sa peau? Elle se força à sourire.
Deux petites plumes condamnées, deux grains de sable ballottés par l'harmattan, deux pollens qui flottent en l'air avant de retomber au pied de leur tige.
Alpha plaisanta.
Pas toujours, Bambi, pas toujours. Certains pollens parcourent des centaines de kilomètres avant de trouver leurs fleurs. Se fichent des murs, des mers et des frontières.
Bambi connaissait le discours de son frère. Dans quelques secondes, il allait lui sortir le nom savant de la fertilisation par le vent, l'anémogamie. Bambi détestait quand son petit frère jouait aux intellectuels, comblait son complexe de rebelle à toute autorité scolaire par de grandes théories et cachait son manque de culture en se mettant à parler le wiki. C'était le défaut des mecs trop beaux et costauds. Vouloir jouer au malin. L'éternel défaut d'Alpha. Se croire plus intelligent que les autres, alors qu'il n'était que plus fort. Elle laissa échapper un imperceptible soupir qui n'échappa pas à son frère. Il se retint d'éclater de rire.
« Ok, ma belle, je te fatigue avec mes histoires. Mais patiente deux secondes, j'attends quelqu'un. Quelqu'un qui va t'expliquer mieux que moi. Il faut juste que... »
Il tourna les yeux vers le policier toujours penché sur son ordinateur, comme s'il constituait une menace. Bambi suivit son regard sans comprendre. Elle se sentait fatiguée. Le café lui donnait la nausée.
Sa voix se fit plus sèche. « Et si notre plan ne fonctionne pas? Et si on finit en prison? Et si on ne survit pas? Maman sera seule cette fois, définitivement seule !»
Elle posa la main sur le triangle noir, comme pour briser l'étoile. Alpha la retint.
« On fait tout ça pour elle, petite sœur. Pour elle! Ne l'oublie pas. Et Tidiane? Je lui expliquerai. »
Ils marquèrent un long silence. Ce fut la serveuse du Starbucks, d'une voix de camelot annonçant le gros lot, qui le rompit.
« Julot et pétard, deux cafés, prêts !»
D'une pression sur la main de sa sœur, Alpha lui fit signe de se taire le temps que le flic range sa tablette, attrape ses deux cafés et se dirige vers la sortie. Lorsqu'il passa devant eux, Bambi détourna la tête, puis la releva pour détailler ses jolies fesses. À peine était-il sorti qu'un homme noir entra, plus âgé qu'Alpha, mais presque aussi grand. Son crâne était rasé, à l'exception d'un duvet grisonnant ses tempes. « Bambi, je te présente Savorgnan. » En quelques mots, Alpha expliqua que Savorgnan était clandestin. Savorgnan venait du Bénin, un minuscule état francophone coincé contre le géant nigérian. Un des pays les plus pauvres de la planète, sans pétrole, sans route goudronnée. Juste un port au sud pour fuir par la mer, et la forêt au nord pour se cacher avant de traverser le désert et parvenir jusqu'ici. Savorgnan était arrivé il y a 2 mois en compagnie de cousins de Cotonou. Bola, un informaticien, Jimon, un architecte, Whisley, un musicien d'Afro-Zouk, Zaérine, un agronome. L'accolade entre Alpha et Savorgnan s'éternisa. Bambi la trouva forcée. Ses yeux descendirent vers leurs 2 triangles noirs superposés. Pour atteindre leur étoile, Alpha allait lui aussi devoir flirter entre le bien et le mal. Marcher sur un fil. Perdre son âme. Savorgnan a laissé derrière lui sa femme et ses 2 enfants, précisa Alpha, comme s'il s'agissait de la marque de courage la plus absolue. Babila, sa fille, et Kayvan. Bambi ne put s'empêcher de réagir. Elle fixa Savorgnan dans les yeux. « Alors tu as abandonné ta femme et tes enfants pour devenir clandestin? Tu trouves que cela fait de toi un héros ?» Alpha, agacé, esquissa un mouvement pour faire taire sa sœur, mais Savorgnan le retint. Il émanait de lui l'aura douce d'un marabout.
« Quel est ton rêve, ma belle ?»
Bambi se tut, surprise.
«
Moi, mon rêve, ce sont les mots. Je lis. J'écris. Je ne fais que ça toute la journée. Je ne rêve pas seulement de devenir journaliste, ou même éditeur, chroniqueur, romancier. Non, ma belle. Je veux être le premier. Le Goncourt ou rien. »
Il éclata d'un grand rire.
Whisley, le guitariste, il veut devenir Presley ou Marley. Question d'homonymie.
Zaérine est plus raisonnable. Il veut seulement être chercheur en agronomie pour réduire la faim dans le monde, ou en Afrique au moins, à commencer par le Bénin. Mais tu ne m'as pas répondu. Quel est ton rêve, ma princesse? Tu en as forcément un.
Un seul, pensa Bambi. La danse, la musique, la mode, les arts. Rencontrer un prince charmant. Devenir millionnaire et offrir un palais à sa mère? Faire le tour du monde? J'en ai plusieurs.
Savorgnan chaussa des petites lunettes carrées qui lui donnèrent un air plus professoral encore.
Tout le monde possède des rêves, Bambi. Et ce qui compte, ce n'est pas de les réaliser. C'est juste de pouvoir y croire. Qu'il existe une possibilité, une petite chance. Quand tu nais au Bénin, quand tu restes au Bénin, à Cotonou ou à Porto Novo, tu enterres ce petit espoir. Tu le jettes définitivement dans l'océan. Sur les 10 millions de Béninois, pourquoi n'y aurait-il pas de petits Zidane, de petits Mozart, de petits Einstein? Pourquoi les Béninois ne naîtraient-ils pas eux aussi avec cette graine de talent? Mais cite-moi un prix Nobel béninois, un médaillé olympique béninois, ou même le moindre acteur béninois. Tu comprends, Bambi? On veut juste notre part de rêve.
Bambi bafouilla. Même ici, même en France, tu sais ce genre de rêve?
Je sais. Ils sont rares, les vrais rêveurs, les chercheurs d'or. Les obstinés qui ne se résignent pas. Les dingos qui croient à leur destin. De ma ville d'Abomey, nous sommes 5 à être partis.
Il éclata encore de rire en avalant d'un trait le café qu'Alpha était allé lui chercher.
L'Occident croit que s'il ne se barricade pas, toute l'Afrique va débarquer chez lui. Quelle peur idiote! L'immense majorité des populations veulent rester là où elles habitent, là où elles sont nées, avec leurs familles et leurs amis, du moment qu'elles ont à peu près de quoi survivre. Elles s'en contentent. Il n'y a que quelques fous pour tenter l'aventure. Entre 100 000 et 200 000 migrants qui tentent de passer la Méditerranée chaque année, moins d'un Africain sur 10 000. Et on parle d'invasion.
Alpha tira sa vorgnan par la manche, comme pour lui signifier qu'ils étaient pressés. Son frère avait chaussé ses lunettes de soleil, enfilé son blouson de cuir, toute la panoplie du petit chef de bande. Le Béninois ne bougea pas.
Ces fous existeront toujours, dit-il en fixant Bambi. Ceux prêts à tout risquer pour voir ce qui se passe de l'autre côté de l'eau, sur l'autre versant de la montagne. Tu vois ce que je veux dire, Bambi? Ulysse, la toison d'or, Christophe Colomb, ceux nés avec cette quête dans la tête. Il y a quelques années, quand des scientifiques ont cherché des candidats pour partir sur la planète Mars, avec la certitude qu'ils ne reviendraient jamais vivants sur Terre. Ils ont tout de même trouvé des milliers de volontaires.
Cette fois, Alpha se leva. Il regardait autour d'eux, aux aguets, comme si la survie du groupe dépendait de sa seule vigilance. Celui qui sait, qui anticipe et décide vite. Bambi sourit. Une nouvelle fois, son petit frère en faisait trop.
Un dernier mot, l'ami. Un dernier mot.
Savorgnan planta ses yeux dans ceux de Bambi.
Contrairement à ce que chacun croit quand il croise des clandestins en haillons dans la rue, ce ne sont pas les plus démunis qui partent. Pas ceux qui n'ont rien à perdre. Ce sont ceux qui ont des chances de gagner. Ce sont des champions. Des champions que les familles choisissent. Des chevaliers auxquels on a tout donné pour qu'ils reviennent en vainqueurs.
Alpha lui attrapa le bras. Bien, fit-il.
Des champions. Et c'est grâce à des champions comme toi que je vais gagner.
Il allait en dire plus, mais Savorgnan le retint.
Tu me parleras de ton plan plus tard, l'ami. Ton plan infaillible. Là, je n'ai pas le cœur à ça.
Il fouilla dans sa poche, serra le poing et déposa un bracelet vert perforé sur la table.
Les flics ont pris Bola et Jimon il y a une heure. Ils auront du mal à éviter l'expulsion. Surtout Jimon, avec sa cicatrice qui lui barre le visage. Ils pourront facilement l'identifier. 6 mois d'efforts à frôler quotidiennement la mort pour revenir au point de départ.
Alpha en profita pour reprendre la main.
C'est pour ça, Savorgnan. C'est pour éviter ça que l'on va s'entendre tous les deux.
Bambi regarda Savorgnan se lever à son tour. Alpha passait son bras autour de son épaule. Son frère jouait à nouveau au petit chef trop sûr de lui. La force est toujours mauvaise conseillère, pensa-t-elle. Cette assurance virile qui fabrique les costauds qu'on envoie faire le sale boulot. Ces cavaliers fauchés qui chargent en premier. Ces graines de héros sans peur dont on fait les kamikazes. Alpha accrocha le triangle noir à son cou. Bambi fit de même, en tremblant.
Bonne chance, petite sœur.
Bonne chance, Alpha. À ce soir. Maman ne doit se douter de rien.
Maman tient beaucoup à ce que nous ayons l'image d'une famille modèle. Ne t'en fais pas.
Il afficha un sourire confiant.
Sois prudent, petit frère.
Sois prudente, Bambi.